Bon, alors, c'était attendu, une entente entre le fédéral et Air Canada.
Voilà. Juste des prêts. Presque 6 milliards et juste des prêts, Paul. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Le bon contribuable ne donne rien à Air Canada. On lui prête de l'argent pour lui permettre de passer au travers de la pandémie. Si je voulais résumer l'idée générale de la transaction, si on peut dire, de l'accord, c'est comme ça. C'est Air Canada, dans le fond, pendant cette pandémie, a été obligé d'aller emprunter sur les marchés parce qu'il n'y a plus de passagers, ils n'ont plus de liquidités. Et ils ont emprunté, mettons, Paul, à 6 %. Ils sont allés voir des banquiers, des investisseurs. Bon, tu sais, 6 %. Pendant ce temps, le fédéral, lui, emprunte à un taux d'intérêt de 1 %, puis même en bas de 1 %. Fait que le principe général de l'entente, c'est de permettre à Air Canada de bénéficier du taux d'intérêt auquel le fédéral peut emprunter et de permettre à Air Canada, dans le fond, de vider sa marge de crédit.
C'est le discours de Trudeau depuis le début en disant on peut emprunter avec un taux, celui du gouvernement, qui est nettement inférieur, plutôt que de voir les gens s'endetter ou les entreprises s'endetter.
Exactement.
C'est pas mal le discours qu'on entend depuis un an. Là.
Tu as absolument raison. Et là, tu as différents taux d'intérêt qui s'appliquent à l'intérieur de l'entente. Par exemple, pour le remboursement des billets, le remboursement des crédits voyage, le taux d'intérêt est de 1,2 %. Air Canada va payer 1,2 % pour avoir accès à un montant d'argent qui lui permet de rembourser les billets. Puis évidemment, pourquoi on leur fait ce très bon taux d'intérêt? C'est parce qu'Air Canada, ça ne lui tentait pas de rembourser. Fait qu'Ottawa a dit, OK, on va vous faire ça à 1,2 % là, tu sais, puis rembourser voyageurs. Bon. Dans les conditions négociées par Ottawa, plafond salarial pour les hauts dirigeants qui sont plafonnés à 1 million par année. Tout compris, Paul. Je me suis bien renseigné auprès d'Ottawa hier. J'ai dit, ouais, les options. Non, c'est un...
La retraite, le parachute doré.
Les options d'achat. Mm-hmm. Non, c'est 1 million par année pour chaque haut dirigeant de Air Canada, tout compris, pas d'échappatoire. J'ai dit, ouais, puis c'est bon combien de temps, ça? C'est bon tant que Air Canada n'aura pas remboursé toute l'aide consentie. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais 1 million, c'est quand même pas pire, tu sais. Puis l'autre.
Mais c'était quoi la rémunération du PDG?
C'est exactement ça. Et quand j'ai posé la question, il m'a pas donné la rémunération, mais il m'a dit. Il dit, garde, 1 million, ça peut te sembler beaucoup, Bernard, là, mais quand t'en faisais 15, là.
C'est ce que j'allais dire, je pense que t'as 13, mais tu sais, c'est de mémoire, là.
Tu sais, fait que c'est ça. Bon.
Il y a un nouveau PDG qui s'en vient chez Air Canada aussi.
Bien, il est déjà en place, ouais. M. Rousseau, si je ne me trompe pas. Bon, là, l'autre chose, pour ceux et celles qui ont à cœur l'avenir de notre industrie aéronautique, vous noterez que dans le cadre de l'entente, Air Canada s'engage à compléter l'achat de 33 Airbus fabriqués à Mirabel. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour notre industrie. Ici à Montréal, ils achètent également 40 Boeing 737 MAX parce qu'il y a une bonne partie de ces avions-là également qui sont fabriqués au Canada. Pour ce qui est des régions, alors, autre bonne nouvelle, Air Canada s'engage à rétablir un certain nombre de liaisons régionales. Mais là, il y a des questions qui restent sans réponse, Paul. Parce que
je voulais dire à combien?
Ben c'est, alors, d'une part...
Les tarifs.
Et lesquelles oui. Liaisons régionales? Parce que là, tu as des liaisons régionales qui vont être desservies par des avions d'Air Canada et tu en as d'autres qui vont être desservies par des transporteurs autres avec lesquels Air Canada va signer une entente. Ils appellent ça des ententes interlignes. Alors, Air Canada s'engage à donner un service, mais ça ne sera pas nécessairement ses avions. Ça pourrait être, mettons, Pascan, par exemple.
Oui.
Et moi, ce que j'ai...
Là, tu penses aux Îles-de-la-Madeleine, entre autres. Là.
Et je peux t'annoncer ça, là, je l'ai confirmé auprès d'une source à Ottawa hier. Les Îles-de-la-Madeleine ne seront plus desservies par des avions d'Air Canada. Air Canada va en venir à une entente avec un autre transporteur. Bon, il y a des Madelinos, honnêtement, qui ne seront pas mécontents de ça parce que Air Canada a été tellement face à claque dans sa façon de desservir les îles au fil du temps que les Madelinos ne se plaindront pas si ce n'est pas Air Canada, mais ça lui prend un service. Alors là, Air Canada...
C'est comme un service d'autobus volant, là, parce que ça part de... Moi, je l'ai déjà fait, là, ça part de Saint-Hubert, t'arrêtes à Québec, t'arrêtes après ça à Amqui, je pense, puis...
Ou à Mont-Joli.
Peut-être là. Mont-Joli, ouais, excuse-moi, puis après ça, tu t'en vas aux îles.
Exact. Et là, ce que je comprends, par contre, l'affaire qui est intéressante, c'est que si Air Canada, par exemple, en vient à une entente avec un transporteur autre, je donne encore une fois l'exemple de Pascal, mais ça pourrait être Air Québec, peu importe. ça va quand même, ce service régional va quand même être intégré au réseau d'Air Canada. En d'autres mots, je te donne un exemple. Tu pars des îles, tu t'en vas à Vancouver. Tu déposes tes bagages dans l'avion, le petit avion qui décolle des îles. Tu vas te rendre à Vancouver, puis tes bagages vont suivre. En d'autres mots, il va y avoir une entente pour faire en sorte que ce transporteur, ce tiers parti,
Pascal va faire privé. Partie de Star Alliance.
Ben, je sais pas si ça va aller jusque-là, mais tu comprends le principe. T'auras pas besoin de courir après tes bagages. Ils vont se transférer d'un transporteur à Air Canada, donc pour donner une espèce de service continu. Alors voilà.
Bon.
On va.
Je vais parler avec la ministre, Mme Joly, tantôt. Là,
très bien.
Une couple de questions.
C'est sûr que. On dit qu'il est écrit des fois. Hein, ça, c'est comme le bilinguisme officiel. C'est écrit dans la loi. Mais on sait que dans la réalité, ça se traduit pas toujours comme cela. Alors, on verra bien dans ce cas-ci.
Bon, parlons du Parti conservateur qui est encore pris avec la patate chaude de l'avortement.
Écoute, Paul, il va falloir à un moment donné que le Parti conservateur règle le débat de l'avortement une fois pour toutes. Sinon, ils vont assurer la réélection des libéraux pour l'éternité. Puis, qu'on soit libéraux ou pas, là, dans une démocratie, à un moment donné, ça prend une alternative. Puis là, l'enjeu de l'avortement est en train d'éliminer les conservateurs comme alternative aux libéraux. Parce que l'avortement les rattrape tout le temps. Puis ça fait en sorte que les conservateurs deviennent infréquentables pour des électeurs modérés, mettons, qui pourraient éventuellement être intéressés par le message conservateur, mais qui sont rebutés par la crainte qu'un gouvernement conservateur ramène l'avortement. Hier, là, O'Toole s'est présenté en point de presse devant un journaliste pour dénoncer la gestion de la pandémie du gouvernement Trudeau. Puis l'essentiel de son point de presse a porté sur le projet de loi de l'une de ses députées.
Mais il me semblait qu'il avait comme fait le ménage ou qu'il avait endigué la vague, disons, de conservateurs fondamentalistes. Là.
Pas en tout.
Ils sont encore très actifs.
Ils sont encore très actifs. Et non seulement ils sont encore très actifs, Paul, ils sont encore très nombreux.
OK.
Ça dépend des calculs, là, mais t'as entre le quart et le tiers de son caucus qui est pro-vie, qui est contre l'avortement. Puis là, t'as l'une de ses députées, justement, issue de cette mouvance, qui a déposé un projet de loi qui vise à interdire les avortements selon le sexe du fœtus. Parce que tu as effectivement parfois des parents qui demandent un avortement parce qu'ils savent que la maman attend une fille. Puis moi, je veux dire, on est tous contre ça, là. Il n'y a pas personne qui est pour ça, là. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu veux encadrer l'avortement, au nom de cet enjeu-là, tu ouvres la porte aux adversaires qui vont dire « Ah, on sait bien, vous voulez vous servir de cet enjeu, du sexe du fœtus, pour, dans les faits, restreindre l'accès à l'avortement. » C'est exactement ce que Mélanie Joly a fait hier. Elle est sortie sur ses réseaux pour dire « Les conservateurs, encore une fois, veulent contrôler le corps de la femme. » Puis O'Toole l'a promis, pendant sa course au leadership, de permettre à des députés conservateurs d'introduire des projets de loi contre l'avortement. Et c'est ce qu'il fait. Et O'Toole a beau dire « Non, c'est pas ça que je fais. Je vais voter contre le projet de loi. » Il est encore obligé de se défendre. Il est encore obligé d'être sa défensive. Et Paul, je te le dis, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, que les conservateurs adoptent dans leurs statuts et règlements une position qui est clairement en faveur de l'avortement pour se sortir de ce débat-là.
C'est parce que ça revient continuellement. Là. Ils sont au pouvoir, ils sont dans l'opposition, des projets de loi privés, c'est toujours...
C'est toujours à recommencer.
Et souviens-toi de la dernière campagne avec Andrew Scheer qui était pris pour répondre à ça à chaque fois. Là.
Il a perdu là-dessus. Puis
ouais,
il a perdu,
ouais, puis parce qu'il répondait tout croche, entre autres. Là. Mais bon.
Exactement. Alors moi, je pense qu'il va falloir que les conservateurs en finissent par venir un peu à la même situation, à la même position que les libéraux fédéraux. Trudeau, lui, exige que les candidats et candidates qui se présentent pour le Parti libéral soient pour l'avortement. That's it. Si t'es pas pour, tu peux pas te présenter avec nous autres. Il va falloir que les conservateurs en arrivent là, Paul. Puis ça pourrait être une manière de se débarrasser de leur fameuse droite religieuse. Parce que tant et aussi longtemps qu'ils vont être pris avec ça, je pense que ça les condamne à la défaite. Ça regarde mal pour les conservateurs là, pour les prochaines élections. Pas juste à cause du dernier congrès là où il y a eu un vote qui reconnaissait pas les changements climatiques. Mais encore une fois, tu sais, il va falloir, Paul, puis je te le dis, là, je ne sais pas si O'Toole va perdre la prochaine, on verra bien, ça, c'est les électeurs qui vont décider ça. Mais s'il fallait qu'il perde l'élection puis on se retrouve encore en campagne au leadership au Parti conservateur, ça va prendre un chef ou une chef qui est issu du courant progressiste conservateur, puis qui dit, si vous m'élisez, là, ça va être ça la ligne. On est en faveur de l'avortement, puis ceux et celles qui ne sont pas d'accord, vous irez vous chercher un autre parti.
Un autre chef.
Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, Paul?
Maxime Bernier va vous accueillir.
O'Toole, il a fait un pacte avec le diable. Il a gagné à chefferie en faisant des clins d'œil à la droite religieuse, puis là, il est encore pogné avec.
Merci, bonne journée.
Salut.
7h13.